Et que la foi d'Israël était prête à la révélation de la Torah, et même elle débute d'utiliser pour faire admettre que c'est le même Dieu qui a fait sortir l'Israël d'Égypte et qui donne la paix. C'est ce problème que nous avions à Rachel tout à l'heure, que la société juive contemporaine lui a en deux, ce qui reste encore au stade de la foi de la première étape, le sionisme sans Torah, si vous voulez, et puis ceux qui sont déjà dans la deuxième étape. C'est même Moïse donnant la Torah. En fait, le constat est plus nuancé. Par rapport à ce problème, il y a quatre attitudes. Il y a ceux qui ne reçoivent que le Moïse de la sortie d'Égypte et pas le Moïse de la Torah. Il y a ceux qui reçoivent que le Moïse de la Torah et pas le Moïse de la sortie d'Égypte. C'est pour ce que vous avez aussi. Il y a ceux qui ne reçoivent ni l'un ni l'autre et il y a ceux qui, grâce à Dieu, reçoivent les deux. Vous avez compris. Où il faut se ranger. Je ne vais donner aucune consigne de vote aux prochaines élections à la Knesset. Mais voilà l'état des choses. Pourquoi ? Parce que le fait d'arriver à réaliser que c'est ce même Moïse et que la foi d'Israël était préalable à la révélation de la Torah, et même elle débute d'utiliser pour faire admettre que c'est le même Dieu qui a fait sortir l'Israël d'Égypte et qui donne la paix. C'est ce problème que nous avions à Rachel tout à l'heure, que la société juive contemporaine lui a en deux, ce qui reste encore au stade de la foi de la première étape, le sionisme sans Torah, si vous voulez, et puis ceux qui sont déjà dans la deuxième étape, c'est même lui donnant la Torah. En fait, le constat est plus nuancé. Par rapport à ce problème, il y a quatre attitudes. Il y a ceux qui ne reçoivent que le Moïse de la sortie d'Égypte et pas le Moïse de la Torah. Il y a ceux qui reçoivent que le Moïse de la Torah et pas le Moïse de la sortie d'Égypte. C'est pour ce que vous avez aussi. Il y a ceux qui ne reçoivent ni l'un ni l'autre. Et il y a ceux qui, grâce à Dieu, reçoivent les deux. Vous avez compris. Où il faut se ranger. Je ne vais donner aucune consigne de vote aux prochaines élections à la Knesset. Mais voilà l'état des choses. Pourquoi ? Parce que le fait d'arriver à réaliser que c'est ce même Moïse qui donne la Torah, qui fait sortir l'Israël d'Égypte d'une part, le programme de l'histoire nationale, qui d'autre part donne la Torah, c'est le même. Voilà, c'est cette perplexité qui a été celle de la génération du désert au pied du Sinaï. C'est bien clair, franchement ? Je vais vous montrer ça dans un commentaire que je suis traité. Vous allez prendre le chapitre 20 sur le premier commandement. Voilà, sur le verset 2 du chapitre 20, dès que vous avez trouvé le texte, vous suivrez avec moi. Verset 2 du chapitre 20. אנוכי השם אלוקיך אשר עשיתיך מארץ מצרים, כן? מבית רבדים. זה סדר שפה על עשה אשר עשיתיך מארץ מצרים מבית רבדים. זה נקרא שכון הראשי. עשית אשר עשיתיך מארץ מצרים. דבר ראשי. הרבים ירימו. שכון הראשי מנחים על המחיתה שפנות שיזה מגיעו לגמל. כדאי היא האוצר שתהיו משורדים לי. קורא לכם שצורתי לגיד אוצר cette sortie, c'est pas Yotia, c'est Oka, parce que ça fait malgré eux, c'est ça, Oka. On les a transportés aux pièces, et afin que vous soyez mes serviteurs à moi, ça vaut mieux que de l'être les serviteurs de l'Égypte. C'est vrai que je dis bien. Même si apparemment on n'a pas les mêmes allocations familiales, mais quand même, c'est mieux. Deuxième étude. Alors, d'abord à faire, autre enseignement, les filles chez Migla, Bayam, qui vous donnent le Khama, parce qu'ils se révèlent sur la main rouge, c'est Gibor Milchama, comme un héros de guerre. Ça veut dire, si on avait à imaginer l'intervention de Dieu au niveau des symboles du Midrash, si vous voulez, sur la main rouge, ce serait un héros de guerre qui apparaissait. Un officier de salle. Ça va comme identification. Hein? Bon, ça c'est la première expérience. Et puis, je nous la calme que Zakhen Mader Ahamim. Et ici, il se révèle comme un vieillard plein de miséricorde, un rosh Shiva. Alors mettez-vous à la place de cet homme-là. D'arriver à comprendre qu'un officier de Sahal et le roi de Shiva, c'est la même chose. Vous avez compris, vous avez compris. à quel point nous vivons ce problème-là dans, l'histoire de la société juive contemporaine, particulièrement en Israël. Alors, grâce à Dieu, il y a des juifs qui témoignent de cela. Ce sont des rachés yeshivot qui sont officiers de Tsahal. On peut le dire d'ailleurs de l'autre manière, ce sont les officiers de Tsahal qui sont rachés yeshivot. Nous avons tout le problème. Mais en dehors d'eux, il n'y a que ou des officiers de Tsahal, ou des rachés yeshivot. Et ce n'est pas évident que c'est la même chose. Mais peut-être qu'il faut construire ça, ça commence, de rendre ça évident que c'est la même chose. Voilà, vous avez compris, il y a deux problèmes. Je pense que c'est clair, ok. Rachid le dit très clairement pour expliquer quel mot, pour expliquer le mot de Anochi. Je reprends le premier verset. Anochi, Hashem Elokecha, Asher Tukikra, Meret Mitzrayim, Yivet Ravadi. Et on traduit habituellement, je suis Hashem ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Le mot de Anochi ne veut pas dire je suis, il veut dire c'est moi qui suis. Il n'y a pas écrit à nous. Vous pouvez, si on écrit « Ami Hashem Elokecha », on pourrait traduire « Je suis », définition plus simple. Mais « Anochi » en hébreu, vous entendez ça en hébreu? La différence entre « Anochi » et « Ami » a une différence de d'affirmation de confirmation. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la Torah. Il est obligé de s'identifier en disant « Attention, c'est bien moi qui vous ai fait sortir de l'Égypte. » Parce que s'ils entendent ce même Dieu qui leur donne la Torah, ils vont dire « C'est un autre ». C'est vrai jusque-là? Bon, alors ceci dit, entendez bien qu'il y a un ordre. Il faut d'abord sortir de vie. D'abord le passage de la mer Rouge, le livre de Milchama, et après on arrive au Moïse de la Torah. L'ordre inverse est allogique. L'ordre inverse est économique, un échec. C'est mieux. Un échec. Tant qu'on est dans la première phase, l'expérience de la fin de l'exil, il y a des chances qu'on arrive qu'à faire dans la Torah. Mais si on commence par la Torah, sans l'expérience de la sortie d'Égypte, on ne sera jamais caché d'aucune manière possible. Bon, je vais dire ça avec un vocabulaire plus simple. Un juif religieux, mais qui est sioniste, devenant religieux, devient un juif normal. Mais un juif religieux qui n'est pas sioniste ne deviendra jamais un juif normal puisqu'il ne deviendra jamais sioniste. Vous avez compris ça? C'est bien clair. Et bien, je sais très bien que la génération contemporaine est très perplexe de l'existence de grandes autorités rabbiniques qui lisent à l'envers. Alors, c'est à eux qu'il faut leur poser la question. Pourquoi ils lisent à l'envers? Mais je pense que ce que je vous ai dit là est clair, le fait. Faites bien attention, je ne vous ai rien inventé, je vous ai lu Rachid. Alors la question est, mais est-ce qu'ils n'ont pas lu Rachid? Bien sûr qu'ils ont lu Rachid. Mais vous comprenez à quel point, lorsqu'on a une option idéologique préalable, on ne voit pas ce qu'il y a écrit. Est-ce que c'est clair? Alors vous allez me dire, mais peut-être que c'est ton cas. Alors c'est la raison pour laquelle je l'ai fait lire. C'est que vous le disiez vous-même. C'est clair, Alors, je reviens à la question qui m'a été posée tout à l'heure. Oui, je pense qu'on aura le temps. Oui, dans le numéro du verset. Alors, prenons le chapitre 3, verset 2. Lorsque Dieu s'adresse à Moïse au moment de la révélation du buisson ardent, chapitre 3, verset 10, mais je vais commencer par le verset 11. Lorsque Dieu s'adresse à Moïse au moment de la révélation du buisson ardent, il le charge d'aller affronter le Pharaon et les Hébreux pour faire sortir les Hébreux de l'empire du Pharaon. Et Moïse, qui a déjà eu l'expérience 40 ans avant qu'il avait essayé, il n'avait pas pu, il était lorsqu'il a refusé les Égyptiens et les Hébreux. Je vous rappelle, on a étudié ça dans une étude précédente. Vous vous rappelez de cela? Le problème de la vocation de Moïse. Alors, Moïse dit ceci, verset 11. Vayomer Moshe et la Elohim. Et Moïse dit à Dieu, ni à Moshe, qui suis, qui est le Pharaon, de telle sorte que j'aille chez le Pharaon, je suis aussi de l'Israël, et que je puisse sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Vayomer, et Dieu lui répond, verset 12. Qui est lié à Emma, c'est que je serai avec toi. Je suis le bien maintenant. Et voici pour toi le signe qui a mochi chez la Ficha, que c'est bien moi qui t'ai envoyé. Et la première réponse concerne le pharaon. Le pharaon n'est pas peur, je suis avec toi. Hein? Maintenant, en ce qui concerne les Hébreux, tu as peur de la réaction. Alors voici pour toi le signe qui a nourri sur la Ticha, que c'est bien moi qui t'ai envoyé, de Tiacha et Taham et Israël, lorsque tu feras sortir le peuple de l'Égypte, Taham et Israël aussi mal à arranger. Vous viendrez servir Dieu sur cette montagne. Et la révélation du Sinaï s'est faite sur la montagne où il y a eu la révélation du buisson ardent. C'est bien clair? Alors le contexte est très clair. Ça veut dire, si tu as des problèmes avec tes Hébreux, amène-les ici, et ici je me révélerai à toi. Et par conséquent, si Moïse les a amenés là-bas, c'est parce qu'il avait des problèmes avec eux. Sinon, il les aurait amenés directement à Jérusalem. C'est fait. Bon. Regardez bien le chat. Les Hébrecha Haot, qui a nos fiches la fière, en ce qui te concerne à toi, voici le signe que c'est bien moi qui t'ai envoyé. Ce que je voulais raconter, il m'a amené à Arsinaï. Il les a amenés au Arsinaï. Et Dieu s'est révélé à eux pour habiliter Moïse. C'est bien clair. Parce que nous, c'est la difficulté du verset. Donc, ils avaient besoin d'un signe à donner aux Hébreux en Égypte pour utiliser sa mission. Vous savez? Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Eh bien, débrouille-toi. Fais-nous sortir d'Égypte. Et si tu as des pépins avec eux, amène-les ici. Là, ils verront bien que c'est toi qui as réussi. C'est bien clair? Vous avez la tâche immense de Moïse. Il doit arriver à réussir sans aucun truc. Sans aucun signe. S'il est nécessaire que ce signe soit donné, c'est une fois que Moïse aura réussi. C'est bien clair, juste là? Alors, vous voyez bien que nous rejoignons l'analyse de tout à l'heure. Les Midrashim vont utiliser ces aspects de deux manières. A priori, c'est l'ignaï. Comme on dit en français, c'est en défaveur d'Israël. C'est-à-dire, on n'était pas capable du premier projet de la Torah. Et donc, c'est un défense de niveau qu'on a été. On a eu besoin de les amener au Sinaï, a priori. Okay? A posteriori, c'est au contraire un cheva, c'est au contraire une nuance. C'est le fait que dans l'état où ils étaient, ils ont eu suffisamment de mérite pour aller quand même au Sinaï et recevoir la Torah et l'habilitation de Moïse. Le thème général qu'il y avait dans tout cet enseignement est important, c'est que c'est le problème de la relation à la Torah, à la relation à la révélation, en général. Lorsqu'il y a refus de la Torah, refus de la révélation, on ne se prend pas du tout la chouchka, de l'insolence de dire qu'on refuse ce que Dieu a dit, mais on nie que c'est Dieu qui l'a dit. Vous avez compris cela? C'est bien ce qui se passe dans cette scène. Alors, je crois que j'ai essayé très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, de mettre ça en évidence. Dans tous les cas, c'est à imputer le mérite du peuple. Vérification de la mission de Moïse. Mais l'objectif, la raison du Mahamad Arsinaï, de la révélation au Sinaï, c'était pour habiliter Moïse. Certains commentateurs de Pirkei Avot ont utilisé cela, que nous venons d'apprendre, pour rendre compte de la première phrase de Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moïse a reçu la Torah du Sinaï. La question qui est posée sur cette formule de la Mishnah, et vous savez à quelle formule est familière, Torah mi Sinaï, Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Ça n'a pas tellement de foi. Et la question est, pourquoi le texte ne dit pas « Moshe qui bel Torah, mais à Kadosh Baruch Hu » de Sinaï. Pourquoi le texte ne dit pas « Moïse a reçu la Torah de Dieu au Sinaï » C'est comme s'il avait reçu la Torah du Sinaï, comme si le Sinaï lui avait donné la Torah. « Moshe qui bel Torah, du Sinaï » Vous savez, j'ai compris en hébreu. La réponse, c'est qu'on n'a pas lu attentivement ce qu'il a écrit vraiment. « Moshe qui bel Torah, du Sinaï » Du Sinaï, ça veut dire « à partir du Sinaï ». À partir du Sinaï, Moshe a été habilité comme celui qui reçoit la Torah et la France. C'est bien fait? Là, le chat revient. Moshe qui donne Torah, ni Sinaï. Ça va jusque-là? Bon. Bien. Alors, voilà donc, je vais simplement vous donner un plan qui me semble extrêmement important et que j'ai étudié dans un livre très, très important, bien que peu connu, dans les grands kabbalistes du 10e siècle, 10e plus, 11e moins, entre le 10e et le 11e, qui est Rabbi Chia Nassi, qui a vécu à la fois dans le nord de l'Espagne et dans le sud de la France. Vous savez qu'à cette époque, le sud de la France, qui est la Provence, et le nord de l'Espagne, qui est la Catalogne, étaient la même région. Et donc, les Juifs qui vivaient dans cette région-là étaient très, très liés. Et donc, Rabbi Chia Nassi, qu'on appelle aussi Rabbi Chia Sfaradi, parce qu'il était plutôt connu comme venant d'Espagne que de Provence. Sinon, je ne sais pas comment on aurait dit provençal en hébreu. Comment on dit provençal? Occitan, c'est en français, mais en hébreu. Je suis provençal, bien sûr. La Provence, c'est pas la Provence, ça me tombe, j'ai compris. Il enseigne ça de la manière suivante. Le livre s'appelle Igaïa la Messe. Si vous avez l'occasion de le trouver, ça mérite de l'étudier, indépendamment de l'objet de son enseignement, qui est la guérison du Nefesh en peine, c'est le titre complet en arabe. Il y a une exégèse des versets qui est assez exceptionnelle, et on a toujours regretté de ne pas avoir retrouvé les manuscrits de son commentaire de la Torah. Alors on n'a plus que les quelques versets qui citent en passant la colline de Igaïa la Messe, de son exégèse de la Torah. Une exégèse extrêmement originale. Alors il nous dit ceci, on a l'habitude de parler des 10 commandements. En réalité, il y en a 9, nous dit-il, et ce qu'on appelle le premier commandement, c'est une définition que Dieu donne de lui-même. Cette définition implique certaines mitzvot, mais elle n'est pas en elle-même une mitzvah. Par exemple, Maïmonide va se rattacher à cette première parole des 10 commandements pour un certain nombre de mitzvot concernant la foi en l'unité de Dieu. Mais, je schématise un peu, il nous donne le plan suivant. La Torah concerne la mise à l'épreuve de l'homme dans ce monde-ci, de cette sorte de savoir s'il est plutôt sadique que rachat. J'ai fait une analyse très, très brève, mais si c'est nécessaire, interrogez-moi si quelque chose n'est pas clair. On pourrait le formuler dans une formule, Dieu cherche à savoir si ça valait la peine de créer l'homme qu'il a créé. Alors nous vivons d'abord dans un monde où nous sommes en test, à l'épreuve, et nous sommes à l'épreuve dans trois types de relations. J'en ai parlé hier soir pour ce qui était là sur le renseignement sur Maïmonide. Et le plan de ces trois relations, de ces trois dimensions, a été surtout enseigné dans le détail par le Maharal à travers toute son œuvre. Il a axé cela sur ces trois principes, Ben Adam la Makom, entre l'homme et Dieu, Ben Adam la Havero, entre l'homme et autrui, Ben Adam et Atmo, entre l'homme et soi-même. On est beaucoup plus habitué, en dehors de l'enseignement du Maharal, à diviser les 10 commandements en deux ensembles, Ben Adam la Makom, les commandements qui régissent la relation entre l'homme et Dieu, et Ben Adam la Havero, entre l'homme et son prochain. Le Rabbi Chiya propose, bien avant le Maharal, les Maharaliens avant le Maharal, si j'ose dire, propose une division plus précise en trois groupes de commandements. Puis l'objectif de la Torah, c'est de faire que chaque créature devienne quelqu'un qui puisse dire « Anochi ». Ça veut dire qu'il s'agit de construire le sujet. Et le sujet se construit dans trois types de relations. La relation à Dieu, qui est la source de l'être de toute créature. La relation à soi-même, la dignité de l'homme en soi. La relation à autrui, la relation avec l'autre créature. Et le grand Devin a enseigné cela d'une autre manière, mais j'utilise sa méthode pour ce que je veux dire. Toute la Torah peut être récapitulée en un seul mot. C'est le mot de Anochi. Il s'agit de devenir quelqu'un qui soit sur le modèle de celui qui est Anochi. Est-ce que c'est suffisamment clair ce que je veux dire? Par exemple, reprenons le verset de Shachma. Vaou, à Devarim a elé, à Cher Anochi, ne savecha ayom, à levavecha. Et si nous le lisons en relation avec le premier verset des 10 commandements, ça prend un sens important. Je le traduis pour le mettre en évidence de la manière suivante. Et selon ces paroles que Anochi t'enseigne aujourd'hui. Je vais t'attendre mieux. C'est Anochi qui t'enseigne. C'est la Torah de Anochi que nous avons. Dieu commence par dire Anochi Hashem Elokecha. Hashem Elokecha, c'est Anochi. Ça va jusque-là. Le rôle aussi, c'est de construire la personne de la créature, en fin de compte de l'homme, dans sa dignité totale. Et par conséquent, je vais raconter un midrash. À ce sujet, je pense que j'ai cité une fois, mais je ne me rappelle plus si c'était ici. Au moment où Moïse était sur le Sinaï pour recevoir la Torah, en instant, une partie du peuple fait l'œuvre d'or, et il y a une lutte entre la partie du peuple qui a fait l'œuvre d'or et celle qui ne voulait pas. Et lorsque Moïse descend de la montagne, Josué est allé à sa rencontre. Il se rencontre au milieu de la montagne. Et alors, Moïse entend une voix à Moïse. Et alors, il demande à Josué quel est ce bruit. Et Josué répond, je n'entends ni de bruit de victoire, ni de bruit de l'échec, j'entends un bruit. Là, c'est un thème pour lui-même, c'est que chaque fois qu'Israël se dilige sur un problème essentiel, on n'arrive pas à avoir de majorité. C'est le problème de la Knesset aussi. C'est-à-dire, on n'arrive pas à voir si un camp arrive à triompher de l'autre. Alors, le Midrash Ezechiel dit ceci. J'ai récité cela d'une autre manière, que les Hébreux avaient entendu directement de Dieu Anochi et Lehirecha. Ceux qui sont habitués au texte retrouvent la formule. Ça veut dire Anochi et Lehirecha, mais puis Avoura Shamarnu. Ces deux commandements, l'un qui commence par Anochi et le deuxième par Lehirecha, il n'y aura pas pour toi d'autre Dieu, ces deux-là nous avons entendu directement de Dieu. Et alors, le Midrash explique qu'il se répétait ces deux commandements-là. C'est le bruit que Moïse entendait. Mais comment il se répétait? Il disait « Anochi, Anochi, Lehirecha ». Il est compris. Il dit « Moi, moi, c'est rien à voir avec toi ». C'est-à-dire chacun répétait « Anochi, Anochi, Anochi ». C'est ça qu'il avait entendu, et chacun se le répétait pour lui. C'est-à-dire que le problème qui se posa, c'est le problème de l'égoïsme. Comment se dit l'égoïsme en hébreu? Anochi, comme je dis souvent, nous avons deux problèmes qui assaillent l'identité juive, c'est l'égoïsme et l'égoïsme. Il y a un migrage comme ça. Alors, en tout cas, pour revenir à notre question, cette identité d'Anochi se construit dans trois relations. Et c'est pourquoi il nous dit les neuf paroles qui suivent, c'est les neuf commandements de base, de principe, de ces trois relations entre l'homme et Dieu, entre l'homme et lui-même, entre l'homme et autrui. Je ne sais pas si vous avez en mémoire les 10 commandements, mais vous pourrez faire cet exercice pour vous-même. Voilà l'enseignement qu'il nous donne. Chacun de ces commandements, la relation de l'homme à Dieu, la relation de l'homme à soi-même, la relation de l'homme à autrui, est donné à trois niveaux. Au niveau de l'intention, de la parole et de l'acte. Et je donnerai l'exemple du premier groupe des trois. Et l'ordre de gravité est différent dans chacune de ces relations. Mahashava, Boubou, Mahas. Alors vous allez retrouver ce plan-là. Ça veut dire qu'il y a une division en 9 commandements, 3 par 3, chacun des 3 étant un groupe de commandements et ayant les 3 niveaux, Mahashava, Boubou, Mahas. Dans l'ordre, le chibouz de Rav Chia, c'est de nous indiquer que dans l'ordre des relations entre l'homme et Dieu, ce qui passe avant, c'est l'intention, ensuite c'est la parole, ensuite c'est l'acte. D'où l'ordre des trois commandements, interdiction de l'idolâtrie, c'est l'intention qui fait qu'une idole est une idole, interdiction de prononcer le nom de Dieu en vain, la parole, ça vient après, la pratique du Shabbat, la reconnaissance du Créateur, Maasé vient après. Ça veut dire l'ordre, Mahashava, Dibur, Maasé, c'est l'ordre des relations entre l'homme et Dieu. Alors que si vous allez prendre les trois derniers commandements, ce n'est pas trop compliqué de prendre que ces deux exemples. Quels sont les trois derniers commandements? Vous connaissez les lois de l'Éphéreur? Donc, il y a les trois derniers. Tu ne voleras pas. Ensuite, tu ne porteras pas de faux témoignages et tu ne convoiteras pas. Là, l'ordre est inverse. C'est d'abord le maasé, le vol est un acte. Ensuite, la parole, tu ne porteras pas de faux témoignages, et ensuite, l'intention, tu ne convoiteras pas. Il y a un enseignement pour lui-même qui est très important, sur lequel je reviens. L'ordre de la relation entre l'homme et lui-même est encore un ordre différent, que vous deviendrez par vous-même, d'ailleurs, en étudiant le texte. Je vous donner un petit exercice comme ça. C'est que dans le rapport à autrui, l'urgence, c'est l'acte. Et puis, la parole, c'est important. L'intention, c'est important, mais moins que là, c'est au niveau des actes qu'il faut être scrupuleux d'abord. Et aussi dans la relation de parole, et aussi dans l'intention, mais vous voyez quelle est l'ordre d'urgence, si je veux dire. Dans la relation à Dieu, c'est l'inverse. C'est l'intention où il y a l'accent le plus fort, ensuite la parole, ensuite. Dans le troisième groupe, c'est la parole qui vient en tête. Parole de Tadicha de Kinecha, et c'est une question de choix d'amour très importante. C'est d'abord au niveau de la parole que se perçoit le respect aux parents, la manière dont on leur parle. Qui pourrait dire de quel texte de la Bible on apprend d'autre part? C'est quelque chose que vous connaissez. Voilà, j'ai demandé le... je vais vous dire tout de suite la réponse, comme ça vous comprendrez la question. c'est que la manière dont Ésaü et Jacob s'adressent à Isaac est différente. C'est pourquoi, c'est clair, la manière dont Ésaü et Jacob, au moment de la bénédiction, s'adressent à Isaac. Jacob dit « Kumna, lève-toi donc, Kumna », alors qu'Ésaü dit « Yakum Avi, que mon père se lève et que ça saute. Le Midrash enseigne le sens de « Akol kol Yaakov », ça veut dire que le timbre de la voix était le même, mais pas le même, le même sûr, pas le même. Bien, alors, nous allons nous arrêter là parce que c'est l'heure, il faut préparer la salle pour une minute, J'ai deux choses à dire sur le Mishpatim, mais d'autre part, c'est un Shabbat particulier dans le calendrier de l'année. Alors, je voudrais commencer par vous parler des caractéristiques de ce Shabbat dans le calendrier, et ensuite, le reste du temps, on essaiera de traiter un des sujets de la paracha de Mishpatim. Donc, je dois vous dire à l'avance, cette sidra de Mishpatim, c'est une sidra qu'on ne peut pas étudier, vraiment, je vous le dis pour votre programme d'études futures, sans avoir fait au moins trois grands traités du Talmud, qui sont Baba Metzia, Baba Kama et Baba Batra. Vous verrez par vous-même que c'est l'ensemble des mitzvot dont traite la paracha de Mishpatim, c'est l'ensemble de la législation du code de la Torah, et par conséquent, on ne lui donne que des têtes de chapitre, des principes de la juridiction de la Torah, qui va devenir la juridiction talmudique par la suite, c'est d'ailleurs la même, enfin, elle a été mise par écrit au temps du Talmud, et donc c'est une paracha assez particulière que les talmudistes aiment beaucoup. Mais j'en arrive d'abord à cela. Au premier point, c'est la caractéristique du Shabbat. Il y a d'abord une période de l'année qui commence au premier Shabbat du livre de Shemot et qui se termine à Shabbat Mishpatim, ce qu'on appelle, je vais essayer d'expliquer ça au tableau, probablement je me souviens qu'on en a parlé l'année dernière, mais je crois qu'il faut en reparler chaque année, c'est ce qu'on appelle la période des Shevavim. Alors j'explique d'abord ça. Bon, c'est que je vais faire mes erreurs quand même. Shevavim, je suis comme ça tout à l'heure. D'autre part, c'est la paracha qui s'appelle Shabbat Shkalim. Et ça aussi j'expliquais tout à l'heure, c'est le Shabbat qui précède le retour de Hadar dans lequel il y a pourri, le mois de Hadar dans lequel il y a pourri, mais surtout c'est le mois qui précède le mois de Nissan, il y a fait ça. Ce qui fait que dans les années, il y a 13 mois, où il y a deux mois de Hadar, Hadar Rishon, Hadar Sheni, Hadar Aleph, Hadar Bet, alors la paracha de Shkalim, c'est le Shabbat qui précède le retour du deuxième mois de Hadar. Puisqu'il s'agit du mois qui précède le mois de Nissan. Alors je vais commencer d'abord par expliquer ce que c'est la paracha de la période des Shevavim. C'est une période de pénitence, on pourrait dire ainsi, qui est assez analogue à la période du mois de Elul qui précède Rosh Hashanah, qui précède les fêtes de Tishri. Et on est plus habitué à connaître le mois de Elul comme période de pénitence, autrement dit le Shuva. Et un peu moins, cette institution qui s'appelle les Shevavim, je n'ai pas encore traduit, mais qui était pratiquée, qui continue d'ailleurs à être pratiquée, par ce qu'on appelle, non pas dans le terme qui désigne les sociétés des Hassidim, au niveau sociologique, les courants des Hassidim, mais les Hassidim en général, de quelques communautés que ce soit, ce qu'on appelle Anshe Ma'ase, c'est-à-dire les hommes de piété, de Ma'asim Torim. De bonnes actions. C'était une période, donc depuis le début de Shemot jusqu'à Mishpatim, on avait l'habitude de jeûner par pénitence le lundi et le jeudi de chaque semaine. Vous avez d'ailleurs être au courant de cela que dans la piété juive, en général, le lundi et le jeudi sont choisis quand il faut fixer un jeûne en dehors des jeûnes du calendrier. C'est relié au fait que le lundi et le jeudi étaient le jour, et c'est toujours le jour où on lit le Sefer Torah dans la semaine. Bien, il y a des raisons d'autre ordre, mais c'est la raison du Shulchan Aruch la plus directe. Alors, le mot de Shevavim signifie rebelle. Je vais mettre au tableau l'adjectif. L'adjectif Shevav. C'est
un des deux adjectifs qui construit sur le verbe sous, qui signifie revenir, qui signifie faire repentir, d'où le nom de Yeshua, qui signifie le repentir. Je permets de comprendre tout le monde. Hein. Alors, c'est tracé une chose à deux adjectifs. Sauvage et chave. Chave, c'est celui qui fait repentir. Sauvage, c'est un rebelle. Ça veut dire, je vais donner l'autre sens. C'est sauvage, c'est le premier sens de tout, revenir ou faire repentir. Et nous avons le substantif de Yeshua, d'où le mot de sauvage. Et l'adjectif, et qui signifie revenir sur la force que l'on a faite pour la recommencer. C'est-à-dire, c'est l'idée de l'entêtement, de réveillon. Et à partir du même verbe, la chou, vous avez deux substantifs, Yeshua, repentir, Shav, Shavim, ceux qui se repentent, ceux qui reviennent, et puis d'autre part, Meshuva, entêtement, réveillon, Shovalim, ceux qui se rebellent. C'est-à-dire, Shovalim. Alors, ce mot de Shovalim, en réalité, vous l'avez passé, je le remets au tableau. Ce mot de Shovalim, qui existe pour lui-même, en particulier dans un verset de prophète, Shuvu, Banu, Shovalim. Revenez, enfants rebelles. Vous trouvez dans l'Isaïe. Shuvu, Banu, Shovalim, est formé de l'initiale de chacun, de chacune des sidrotes, depuis chez moi, je fais mes statuts. Alors, je vais vous mettre un peu de tableau. Chez moi. Ensuite, va et va. Cette période a été choisie pour plusieurs raisons, comme j'ai indiqué tout à l'heure, en particulier parce que la période de l'hiver, mais elle correspond au récit de la Torah, auquel on a donné finalement, pour les raisons que nous allons voir maintenant, ce titre de la période de Shovalim. Et puisque c'est une période de risque, de danger, de rébellion, et nous allons voir de quoi il s'agit, alors on l'a institué comme période de pénitence. C'est clair jusque-là? Bon, alors l'idée est très simple, finalement. On lit le récit de la sortie logique. Le récit de la sortie logique, dans ses différentes étapes, à travers ses différents sidrotes, depuis Shemot jusqu'à Mishpatim, et entre autres leçons de ce texte, du récit de la sortie logique, on s'aperçoit qu'il y a eu une extrême difficulté à réussir la sortie logique. Vous voyez comment tout le programme se déroule. Dans les deux premières parachutes, on nous parle de l'intervention de Dieu à travers le livre d'Égypte pour que les Égyptiens finissent par laisser sortir Israël d'Égypte. Ensuite, l'intervention de Dieu pour l'événement de la sortie d'Égypte elle-même, dans Bo et Beshalach, et ensuite la révélation de Dieu à Israël, dans les deux sidrotes qui sont la fin de cet ensemble, Yitro, les 10 commandements, et Mishpatim, la législation des 10 commandements. Alors, la question est posée ainsi, normalement, un tel événement, qui était attendu et espéré depuis le temps des patriarches, à travers toute l'histoire de l'exil d'Égypte, aurait dû se faire de façon plus aisée, de façon plus facile. Mais la providence, si j'ose dire, s'est heurtée à la résistance rébellion, Meshuva, à la résistance d'Israël lui-même. Ça veut dire que c'est une sorte de période de pénitence, d'expiation de cette résistance, de cette difficulté qui a fait que le récit de la sortie d'Égypte va occuper toute cette période-là de Shovalim. Si c'est suffisamment clair, je crois que ça suffit pour diagnostiquer cet ensemble de textes et leur signification. L'étude de la Torah, c'est aussi une leçon de patience. Parce qu'il y a la science et la patience. Bon, je reviens maintenant à la... Je reviens maintenant à la deuxième caractéristique de ce Shabbat. Nous allons étudier, pour commencer, le texte qui sera lu dans le Maspir de la Parasha de Shavuot et qui est le début de la Parasha de Kitissa. Alors vous allez donc prendre dans vos livres, au chapitre 31, si je me souviens bien, mais je vais dire tout de suite. Chapitre 30 déjà. Au chapitre 30, à partir du verset 11. C'est-à-dire, vous êtes à la page 171 de vos livres. pourquoi il fait si chaud ici? La paracha qui dit ça. C'est-à-dire, après avoir lu tout la sidra de Mishpatim, donc, qui est la sidra de la semaine, alors on ouvre un deuxième Sefer Torah, où on va lire le premier verset de ce chapitre 31 à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, si je pense. De ce chapitre 30. Alors, ce texte que nous allons lire immédiatement comporte l'institution de la contribution du Mahasit à Shekel, la moitié du Shekel. C'était le Shekel de ce temps-là, il avait une valeur un peu différente que le Shekel de notre temps. Le Mahasit à Shekel, la moitié d'un Shekel, était déjà une somme assez considérable. Et c'est par ce Shekel que la Trouma, la contribution, l'offrande, qui avait pour objectif de permettre la construction du tabernacle dans le désert, le tabernacle étant la préfiguration de ce que sera le temple de Jérusalem, pour la première fois, pour la première année que cette mitzvah était donnée à la sortie d'Égypte, cet argent du Mahasit à Shekel que chacun donnait dans le dénombrement des enfants d'Israël à la sortie d'Égypte, avait été consacré à acheter les socles, à acheter, comment dire, à fabriquer, les socles des montants du tabernacle. À partir de l'institution du temple, ce Mahasit à Shekel servait à l'entretien de la caisse qui est par laquelle le culte était fait dans le temple. Le principe est le suivant. C'était, il fallait que tout le peuple contribue au culte. Je donne un exemple du contraire. Vous avez des communautés juives où vous avez certains nédivines, des gens très riches qui assurent la majorité du budget de la communauté. Et puis finalement, les autres membres de la communauté ne participent que de manière extrêmement faible. Enfin, dans toute communauté, il y a un Rothschild quelconque, si j'ose dire, ça ne peut même pas passer dans le langage, qui prend sur lui la majeure partie du budget. Et donc, ça lui donne un poids dans la représentation de la communauté qui est, comment dire, exagéré par rapport au droit de dignité de chaque membre de la communauté. Alors, la règle de la Torah, c'est que chaque membre de la communauté doit participer exactement avec la même cotisation. Je ne sais pas comment vous dire cela. Qui est le Mahasit à Shekel, et le texte, nous allons le lire, dit « Le riche ne donnera pas plus, et le pauvre ne donnera pas moins. » De telle sorte qu'il y ait, tout le monde n'est pas à sa place, mais l'idée y est, une sorte de démocratie, de participation à la gestion de la communauté. Maintenant que le temple a été détruit, ce Mahasit à Shekel est consacré à la Tzedaka de Pourim, avec une des mitzvot particulières de la fête de Pourim, c'est la mitzvah de Tzedaka, c'est-à-dire de charité. Un des comportements de constitution de la communauté, c'est la mitzvah de la tzedaka, et donc ces shkalim ne sont plus consacrés à une sorte de caisse centrale de la communauté d'Israël pour l'entretien du culte dans le temple de Jérusalem, parce que le temple de Jérusalem n'est pas encore construit, puisque ce qui est à la place n'est pas encore détruit, mais enfin, nous avons des prophéties. Et puis, donc, en substitution, ce Mahasit à Shekel est donné à la tzedaka. On reprendra le verset d'Imi à propos de Pourim. Et c'est pourquoi, étant donné que pendant tout le mois de Hadar, c'était le temps où on apportait ce Mahasit à Shekel, la moitié du Shekel pour chacun, alors c'est le Rosh Chodesh Hadar que, à la synagogue, pendant la prière, on annonce que le temps des Shkalim est arrivé, et la disposition du rite, c'est que le Mafti, c'est-à-dire la lecture complémentaire de la Parasha, est consacré à la lecture des versets qui instituent précisément le Mahasit à Shekel. C'est clair pour tout le monde? Alors je pense que ça vaut la peine d'étudier ce texte, et puis pour la paracha de Kitissa, qui viendra dans 3 semaines, si je comprends bien, ou 4 semaines, nous étudierons un autre thème de la paracha. Alors prenez donc votre livre au chapitre 30, à partir du verset 11. Alors, comme d'habitude, je lis simultanément, et je traduis simultanément, et j'expliquerai l'essentiel. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, c'est une étude en commun, c'est pas forcément une conférence, j'en ai déjà fait hier, donc aujourd'hui on va changer de méthode. Alors, regardez, Hachem El Moshe le mot. Et Dieu s'adressa à Moïse pour dire, en disant, le mot en disant, pour dire ce qui suit. Kitissa et Rosh Bnei Israël Ifkudehem. Lorsque, je vais vous donner d'abord le sens de l'expression, lorsque tu dénombreras les enfants d'Israël, Ifkudehem, selon leur fonction dans la société d'Israël. et plus particulièrement au moment de la sortie d'Égypte, les différentes tribus, les différentes familles étaient organisées par rapport aux fonctions qu'ils avaient en relation au service du temple, au culte du temple. Vous voyez, le mot de Pekudim, vous connaissez un mot simple du vocabulaire contemporain, le mot de Pakid, qui signifie un préposé à. Les Pekudim, c'est les différentes fonctions de la société. Chaque institution a ses Pekudim, et donc ses Pekudim, pour dire le Pakid. C'est clair. Alors, ici, c'est un verset, une disposition qui s'introduit par l'expression « lorsque ». Lorsque il arrivera que tu auras à dénombrer les enfants d'Israël. Et tout de suite, on nous donne la raison pour laquelle, la seule raison que la Torah va légitimiser, pour autoriser le dénombrement, puisque immédiatement nous allons voir que par principe, le dénombrement est interdit, mais s'il arrive une nécessité qui fait que on soit conduit à dénombrer le peuple parce qu'il est nécessaire vraiment de savoir de combien de personnes on dispose pour les pépidines, pour les fonctions de cette société, et en particulier lorsqu'il y a nécessité de faire la guerre, et qu'il faut se dénombrer, se compter, savoir combien on est. Alors là, c'est autorisé, et il y a une clause, on ne dénombrera pas directement, mais par le biais du Mahasit HaShekel, par le biais de la contribution de chacun, se faisant représenter par la moitié d'un shekel qu'il donne au moment du dénombrement. Et nous aurons donc à étudier plus centralement cette substitution de dénombrement. Avec comme premier point, comment comprendre que le dénombrement et pourquoi le dénombrement est interdit par la Torah. Je reprends d'abord l'expression par laquelle la Torah exprime l'idée de dénombrer, qui tissa est roche. Littéralement, la sète est à roche. Et le roi, la tête. Il y a une ambivalence dans tant l'hébreu que je vais vous dire en français. Ça peut être traduit « élever la tête », mettre en évidence chacun pour le dénombrer. Et d'autre part, la tête est à gauche, ça veut dire « enlever la tête ». Vous voyez, l'ambivalence apparaît tout de suite dans l'expression elle-même. Ça veut dire « dénombrer », d'une certaine manière, ça veut dire « condamner à mort ». Et c'est pourquoi c'est dangereux. Et alors, j'approche par approximation successive du sujet. Premier point, comprendre le caractère dangereux du dénombrement. Et ça, c'est finalement très simple à comprendre. Avant cela, dans une petite préface, je vais simplement vous rappeler, comme je l'ai souvent moi-même entendu, vous pouvez le lire aussi, c'est la question du Aïnara, ce qu'on appelle le mauvais œil. Ça veut dire qu'il y a une certaine tentation d'expliquer les choses ainsi, à un niveau peut-être qui frôle souvent dans l'expression ce qu'on pourrait appeler une mentalité de superstition, dire que compter les gens, ça donne le mauvais oeil, je ne sais pas comment on dit en français, j'ai oublié, ça mène le mauvais oeil, ça porte mal d'air, monsieur Kazuket. Mais la notion de Aïnara. Alors, je parle d'abord de la notion de Aïnara, et ensuite on arrivera à une raison plus profonde de l'interdiction du dénombrement. Alors qu'il faut rappeler cela souvent, il y a un certain nombre de réalités psychosociales, c'est-à-dire qui ont une nature à la fois psychologique et sociologique, auxquelles les modernes sont finalement déshabitués que les hommes des sociétés plus traditionnelles, plus anciennes, dont les hommes de ces sociétés avaient une expérience plus aiguë, et pour qui c'était pour eux donc des évidences qui allaient de soi. Ces évidences traditionnelles, lorsqu'on en perd la signification, lorsqu'on n'est même plus capable de les diagnostiquer dans l'expérience, alors en tant que moderne, on a la tentation de les définir comme étant des superstitions. Il est bien évident que dans l'ensemble des superstitions multiples et variées de la culture humaine en général à chaque civilisation, il y a énormément de choses vaines, de superstitions dans le sens négatif. Mais parfois il y a des références à des conduites traditionnelles que l'on impute à la superstition, mais qui en réalité sont des conduites d'ordre d'expérience très réelle, et que de temps en temps, parfois, la science moderne arrive à découvrir la réalité qu'il y a derrière. En particulier le cas de ce qu'on appelle le mauvais œil. Jeter un œil mauvais, regarder quelqu'un d'autre d'un certain regard, on appelle ça le mauvais œil. Du point de vue de la définition que nous avons dans les sources de Aïnara, c'est l'envie. C'est le fait de regarder quelqu'un avec une sorte de jalousie qui mène à l'envie. Eh bien, les sociétés traditionnelles savaient que c'est une réalité psychologique réelle, importante et grave. Ça mène de la gêne à vivre dans une société où on est regardé avec envie. Ça veut dire le mauvais œil, ça fait du mal c'est bien clair. C'est pas du tout une espèce de sort magique qu'on va jeter sur quelqu'un en le regardant d'un certain regard. C'est tout simplement le fait que le comportement de l'envie qui se traduit par ce regard est une réalité psychosociologique profonde et dévastatrice à la limite. Je pense que même pas la peine de l'illustrer, vous comprenez cela. Donc, vous dire que dénombrer, ça se rattache aussi à ce risque de porter malheur que vous avez dit, qui vient du mauvais œil, ça a premièrement un sens, même à ce niveau-là, assez important. J'essaie de vous décrire pour illustrer ce que nous venons de dire.